Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour, ben, aujourd'hui je suis tout seul avec Alain.
Non, tu n'es pas tout seul puisque je suis là.
Oui, mais je dis avec Alain. Donc oui, Brigitte est en pleine campagne.
Ah, mais Brigitte est en campagne électorale et donc elle est sur le terrain comme une vraie rurale. Donc, c'est vrai que cette campagne est intéressante puisque nous avons dans une liste autour de Jean Lassalle, qui est lui aussi un rural, plusieurs maires de l'association qui suivent Thierry Boisdet, le maire de Saint-Géraud-de-Corps. Donc on verra bien ce que donnera cette ruralité et cette liste.
Bon, pour venir à la ruralité, je crois que notre président est en campagne et aujourd'hui est reçu dans le Lot. Tu as un petit mot à dire par rapport à ça, parce qu'il s'est trouvé à l'esprit rural, Macron, depuis quelque temps.
Aujourd'hui, je suis la cible de toutes les radios et des journaux, puisque en tant que président des maires ruraux, forcément, le président Macron part en campagne dans la ruralité. Mais bon, comme je l'ai dit et je le répète, c'est un gros effet de pub d'abord, et de com, surtout de com. Et donc, il revient là où il va essayer d'avoir des voix. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a aussi un bilan. Et ce bilan, j'ai considéré que si on devait y donner une note ce matin, je l'ai répété, on lui donnerait plutôt 5 sur 10. Donc voilà, le président Macron, aujourd'hui, est dans le Lot. Il avait démarré d'ailleurs après nos cahiers d'oléances, quand il avait fait ses réunions participatives dans les communes rurales, il avait démarré dans le Lot, donc il redémarre dans le Lot, c'est symbolique. Et puis bon, il faut dire qu'il n'a pas choisi n'importe quelle commune, puisqu'elle avait voté à majorité, très large majorité pour lui.
Ouais, donc, 77%,
c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, alors le président Macron est en campagne, mais bon, nous, on a beaucoup de choses à lui dire. On a beaucoup de choses à lui dire. Donc, justement, sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, bon, il y a eu quand même des avancées, dont la nomination de notre secrétaire d'État à la ruralité, notre agenda rural qui est en train de se mettre en place avec les 183 mesures. Bon, certaines sont déjà passées. Notre participation à la nouvelle loi 4D. que dire de plus ? C'est vrai que quelque part, sur la santé, l'idée de donner, de former des infirmières pour limiter les actes des médecins, parce qu'elles sont très capables de le faire, ça paraît quelque chose d'intéressant. Sur l'aide qu'ils donnent. Alors, on parle aussi des maisons de services publics, des fameuses maisons de services publics. Il y a quand même de sacrés inconvénients. Ce que j'ai dit, c'est une coquille qui est à moitié vide et à moitié pleine. Donc, elle est à moitié pleine parce que ça remplace, soi-disant, les services publics, mais ça remplacera jamais ce qu'était un vrai service public, comme la poste, comme l'école, comme EDF, comme la SNCF. Ça, c'est des vrais services publics. Aujourd'hui, il en reste qu'un, qui est à 3 minutes des concitoyens. Ça s'appelle la mairie. Donc, alors, c'est bien d'avoir, parce que faut pas tout lui mettre sur le dos à ce pauvre président. C'est vrai que les services publics, il y en a beaucoup qui ont démarré. Ça a démarré au temps de M. Mitterrand, M. Sarkozy a accéléré, et M. Hollande a lui aussi mis le pied au plancher pour supprimer les services publics. Mais les vrais services publics, c'était cela. Et donc, le problème de ces maisons de services, que faire de nos personnes âgées, de nos handicapés qui habitent à 3, 4, 5, 10 kilomètres de cette maison de service public, comment ils y accèdent? C'est ça le problème. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, c'est que combien il y a de personnes dans ces maisons de service public? Il y a deux personnes minimum, 4 maximum. C'est pas suffisant. Ces gens-là ne peuvent pas répondre d'abord à tout le monde quand les gens viennent, et deuxièmement, n'ont pas assez de formation plurielle sur tous les sujets abordés. Donc, quelque part, Aujourd'hui, il faut que ces maisons de services publics parlent bien sûr des impôts à travers les DGCIP, je vais pas dire la DGFIP parce que les gens ne comprenaient pas, mais les perceptions qui ont disparu. Quand on allait voir son percepteur, il savait de quoi il parle. Quand on allait voir la MSA, on savait de quoi ça parlait. Quand on allait voir le groupe La Poste, on pourrait aussi bien parler de placement d'argent que de courrier, que toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est limité aussi.
Bon. Donc pour toi, les maisons de service public, c'est une maison dans laquelle la personne rentre, mais la personne qui est en face ne peut pas forcément répondre à toutes les questions. La seule chose qu'elle peut faire, c'est simplement à l'aide d'un micro-ordinateur, de se relier à l'administration adéquate.
C'est exactement ça.
Peut-être en trouvant quelques difficultés.
C'est exactement ça. Donc, comme je dis, c'est avoir mis un emplâtre sur une jambe, cassée. Quoi. Et la jambe, même je vais plus loin, puisque c'est une jambe amputée, puisque les services publics, c'était quand même... aujourd'hui, ils sont amputés carrément sur nos territoires ruraux. Et c'est vrai que quelque part, ça nous manque. Ça manque dans la ruralité aujourd'hui. Alors, le paradoxe de tout ça, c'est que quoi qu'il en dise, M. Macron, 83% de nos jeunes, aujourd'hui, désirent vivre à la campagne, quitter les métropoles. Aujourd'hui, Paris perd 100 000 foyers par an. Donc, quelque part, il va bien falloir... redynamiser ces communes, ces territoires ruraux. Et l'idée, moi, que j'en aurais, s'il y avait un candidat qui le dise, c'est de recréer ces services publics. Il faut revenir à ce qu'il y avait de bon dans précédemment.
Oui, d'autant plus que, bon, on le voit dans nos départements, dans nos communes, nous avons des populations âgées qui ne sont pas forcément tous connectées. Et qui ont des difficultés de se collecter, mais aussi de se transporter pour aller à un point. On en avait parlé il y a quelques années, il y avait une grosse campagne sur la création des cartes d'identité sur notre département, et on avait vu avec le préfet de l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, tous ces petits problèmes-là. Aujourd'hui, il y a 17 communes qui sont habilitées à faire des cartes d'identité.
Tout à fait. Mais ça, c'est le plus bel exemple. C'est le plus bel exemple aujourd'hui. Pour avoir sa carte d'identité ou pour avoir son passeport, si vous êtes une personne âgée ou vous êtes un handicapé, si vous n'avez pas la famille, eh bien, vous ne pouvez pas les refaire. Ou alors, ça met un temps innommable. Donc, quelque part, ces gens-là sont encore pénalisés. C'est toujours les plus petits qui sont pénalisés. Et moi, je dis que ça suffit. Encore ce matin, j'entendais, ils étaient en train de parler de voir à limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. Pour réduire la pollution. Mais franchement, la pollution sur la mobilité, qui c'est les premiers qui polluent ? Ce sont les camions par rapport aux chefs d'entreprise, aux entreprises, ce sont les bateaux maritimes, ça pollue, ce sont les avions. Donc avant de s'attaquer encore au contribuable qui a sa petite voiture, on va l'embêter maintenant, on va lui faire payer cette pollution qui est une fausse pollution. Alors bien sûr qu'elle existe, mais comparativement au pourcentage des vraiment pollueurs, les vrais pollueurs, ils ne payent pas. Et donc ça, il n'y a pas inéquité et c'est pas normal. C'est pas normal, d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens qui sont en difficulté financière ont des voitures qui dépassent les 6-7 ans. Et bien bientôt, ils ne pourront plus aller dans les métropoles puisqu'on va leur interdire d'y rentrer.
Alors tu disais tout à l'heure que vous étiez satisfait à l'association d'avoir un secrétaire d'État dédié à la ruralité. Depuis qu'il est nommé, quelles sont les avancées qu'il y a eu sur différents dossiers ?
Alors les avancées, bon, il y en a eu, mais bon, là aussi, je te rappelle, Gérard, qu'on était en Assemblée Générale des maires ruraux à Lyon ce week-end.
On en reparlera
tout à l'heure, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y était, le secrétaire d'État. Enfin non, il y était, excusez-moi, c'est grâce à nous qu'il était là, mais il ne s'est même pas déplacé, il l'a tout fait par visioconférence. Donc ça nous a un peu choqués. Qu'un ministre soit nommé grâce à nous et qu'il ne vienne pas dans son premier déplacement, qu'il ne vienne pas à notre première Assemblée générale. Mais bon, il y a eu quand même, c'est vrai, des avancées. On l'a vu par pas mal de choses. Par exemple, la revalorisation des indemnités des élus ruraux, parce que c'est vrai que quelque part, quand un maire d'une commune de 300 habitants touche 500 euros par mois avec tout le travail qu'il y a à faire, c'était inadmissible, alors que le maire d'une ville importante comme Périgueux ou Bergerac, ça dépasse les 2500 euros. Donc quelque part, et ils ont des services, donc quelque part, ça c'était une revendication qui était légitime. Alors bien sûr, les communes sont obligées aussi de le payer. On a été revalorisé, l'aide de l'État a augmenté. Mais bon, c'était déjà bien. Après, sur l'agenda rural, il y a eu des choses de faites sur plusieurs sujets. Sur la santé, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de travailler sur des maisons pluridisciplinaires. On est en train de travailler avec les médecins libéraux, pour qu'aujourd'hui, les internes intègrent un petit peu les centres de soins, enfin les centres médicaux, pour aider justement les médecins, puisqu'il n'y en a plus, et il va falloir en trouver en plus. Enfin, ce qu'il y a, le ministre est aujourd'hui à notre écoute, mais aussi, c'est le problème, c'est qu'il est aussi à l'écoute du gouvernement, et il fait partie du gouvernement. Donc il peut faire certaines choses, mais il ne peut pas tout faire. Par exemple, le gros problème qu'on a eu ce week-end de lui expliquer, c'est qu'il fait passer des directives par le gouvernement, mais après, l'application sur le terrain, les préfets ne l'appliquent pas. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, de deux aides que les collectivités peuvent avoir. C'est la DETR, la dotation des équipements des territoires ruraux, et puis la DSIL sur l'innovation et sur les travaux qu'on peut faire à la campagne. On pouvait cumuler, l'État dit qu'on peut cumuler les deux aides, mais les préfets ne l'appliquent pas. Donc, quelque part, c'est les préfets qui ne respectent pas. C'est le pire aujourd'hui, c'est que c'est les préfets qui ne respectent pas la loi. Un autre exemple de non-respect de la loi, ce sont nos procureurs de la République. Dans la loi Engagement et Proximité, il était dit qu'ils devaient inviter à des réunions les maires pour parler des pouvoirs des maires. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'est pas très content parce qu'on se fait taper dessus. Et, aujourd'hui, quand on voit que la violence qu'il y a dans les cités, la violence qu'il y a sur dans le pays. Un maire aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui se font tabasser, donc c'est pas normal. Donc on attend que nos procureurs de la République nous réunissent pour nous dire quels sont nos droits par rapport à nos pouvoirs de maire. C'est pas fait. Voilà tout un tas d'exemples vraiment significatifs de ce que la loi dit et de ce qui se passe sur le terrain.
Donc tout à l'heure, tu parlais aussi, donc dans le cadre... vous avez fait une réunion le 29 et 30 mai, c'est une assemblée générale de l'association. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée générale? C'est un congrès, c'est,
Non, alors le congrès, on parle un petit peu de l'avenir de l'association, c'est plutôt pour parler un petit peu des équipements, c'est pour parler un petit peu des lois. L'assemblée générale, c'est statutaire, c'est une association loi de 1901, donc on se réunit comme la loi l'oblige une fois par an. Pour faire le bilan, les bilans, bilan moral, bilan financier, et puis aussi sur les perspectives d'avenir, sur les travaux qui vont conduire à essayer d'améliorer l'association. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Nous étions 89 réunis dans la mairie de Lyon. C'est là qu'on se rend compte dans ce mairie que ça n'a rien à voir avec ma petite commune rurale de Rouffignac ou celle de Saint-Léon-sur-Lisle, parce que c'est somptueux. Bon, on avait le privilège d'être invité par le nouveau maire de Lyon. Nous y sommes allés, nous avons été bien reçus, c'est sûr. Mais c'est vrai que quelque part, sur le bilan moral, j'ai le rapport d'activité 2020, et quand je vois l'épaisseur du document, on voit que l'association des maires ruraux a énormément travaillé cette année sur pas mal de sujets. Par exemple, sur le numérique, avec Ruralitique, sur la culture, parce que ça aussi, on n'en parle pas souvent sur la culture. On a travaillé sur la culture, on a travaillé sur le... Alors, je rappelle aussi l'opération « Bouge ton coq ». Qui pendant le Covid a été quand même une sacrée performance. On a récupéré 200 000 euros de dons.
Vas-y, précise.
Voilà, on a récupéré 200 000 euros de dons, et ces dons, on les a redistribués par des chèques de 1 500 euros à des commerçants et des artisans de toutes les communes rurales. Donc moi, je sais qu'en Dordogne, j'en ai distribué pas mal. J'ai distribué à des restaurants, j'ai distribué à des magasins, j'ai distribué... Donc ces chèques de 1500 euros en trésorerie le rendaient vraiment service, et donc c'était important de le faire. Bon, il y a tout un tas de choses aussi qu'on pourrait parler sur la transition énergétique, sur le commerce, sur toutes ces choses-là, on les a discutées. Et c'est vrai que le rapport moral, il est assez complet là-dessus. Et puis bon, ce qui est important aussi, c'est qu'on a pu avoir une visioconférence avec notre ministre. Et je pense que les maires ruraux ont su lui dire tout le fond de leur pensée par rapport justement au fait de défendre cette ruralité.
Et je crois que vous avez sorti deux motions à l'issue de votre Assemblée générale.
Alors, exact.
Deux minutes.
Oui, deux motions qui concernent les collectivités locales. Une qui est très importante parce que l'État s'est mis en tête de redistribuer la DGF, la dotation globale de fonctionnement. C'est un peu la part que donne l'État aux communes pour pouvoir fonctionner. Et cette DGF, elle est calculée sur plusieurs critères. Et donc, elle est remise à chaque commune en fonction de ses critères. Le gouvernement veut créer ce qu'on appelle la DGF dérogatoire. C'est-à-dire que cet argent serait mis dans un pot commun, serait redistribué aux EPCI, aux communautés de communes et aux communautés d'agglos, qui, elles, le redistribueraient aux communes. Tu penses bien que nous, on n'est pas d'accord avec ça, d'autant plus que les communautés de communes ou les communautés d'agglos, ce ne sont pas des collectivités territoriales, ni des collectivités locales. C'est un outil au service des communes. Donc, qu'est-ce qu'elles viendraient se mêler de l'argent des communes? Et en plus, si un président de PCI n'aime pas le maire d'une commune, pourquoi il lui donnerait une DGF plus importante qu'un autre et vice-versa? Donc c'est là-dessus aussi qu'on n'est pas d'accord. Mais cette motion va dans ce sens-là.
Donc on y reviendra tout à l'heure après la pause.
Après la pause, voilà.
Donc on va faire la pause musicale et on va revenir sur cette question-là.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, ben, nous allons reprendre notre débat. Donc sur cette DGF dérogatoire, donc après ce que j'ai compris, donc ça serait des communautés de communes ou d'agglomérations qui recevraient vos dotations et qui voudraient redistribuer en deuxième temps. Voilà. Ils peuvent les diminuer ou les augmenter. Donc si vous êtes plus maître de votre budget, donc ça c'est je crois que c'est une véritable atteinte à la liberté de gérer sa commune.
Ben forcément, puisque déjà que le poids des EPCI est important par rapport à leurs compétences, mais il ne faut pas oublier que dans les communautés de communes et puis dans les communautés d'agglo, une grosse majorité des communes sont rurales. Donc quelque part, c'est vrai que si... Alors pas tous, mais c'est vrai que quelque part, on se rend bien compte qu'il y a... Alors particulièrement quand le président est de la commune centre, tu penses bien qu'il va, il va se servir avant de servir les autres. Mmh. C'est souvent comme ça, quoi.
Donc ça va être toujours au détriment des petites communes. Mais, est-ce qu'il va peut-être rajouter peut-être l'objectif de la deuxième motion qui a été votée? Donc c'est le vote d'une motion.
C'est pour les communes nouvelles.
Précise ce que c'est qu'une commune nouvelle.
Alors, une commune nouvelle, c'est la fusion de plusieurs communes, d'une ou plusieurs communes. C'est-à-dire que les gens commencent à le savoir maintenant. C'est-à-dire qu'une commune qui veut... Je prends mon exemple, moi, Sigoulès et Flaujac, ils se sont regroupés pour faire la commune de Sigoulès-Flaujac. Vous avez Val-de-Louyre, par exemple. Il y a Saint-Albert, Saint-Drieux et Saint-Laurent-des-Bâtons. C'est trois communes regroupées. Voilà ce que c'est qu'une commune nouvelle. C'est une commune nouvelle parce qu'elle n'a plus le même territoire, elle n'a plus la même dimension, elle n'a plus le même nombre d'habitants. Et bien sûr, il y a un maire de désigné et il y a deux maires délégués. Il y a un maire délégué par commune qui sont rentrés dans cette commune nouvelle. Alors nous, ce qu'on souhaite, parce que on s'est rendu compte, il y a des réussites, mais il y a aussi des échecs. Alors, les réussites, bien sûr, c'est quand elles sont bien étudiées et que les conseils municipaux ont demandé quelques avis auprès de la population. Nous, on demande que ça devienne officiel. C'est-à-dire qu'on demande au président de la République de dire que lorsque deux communes ont l'intention de fusionner, de créer une commune nouvelle, que le conseil municipal ait la possibilité de faire une consultation de la population. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est quand même un bon diagnostic, parce qu'un conseil municipal qui va demander à sa population s'ils sont d'accord pour créer une commune nouvelle, il est bien évident que si une large majorité suit ce conseil municipal, la commune nouvelle se fera. Mais par contre, si une minorité suit ce projet-là, s'il y a une large majorité contre, je pense que le conseil municipal sera assez intelligent pour dire on fait marche arrière. Voilà. Donc c'est vraiment une consultation de la population. Dans l'idée, ça avait été, rappelle-toi Gérard, ça avait été abordé par les Gilets jaunes à l'époque. Ils voulaient ce qu'on appelait des référendums d'initiative populaire. Ça n'a pas le même sens, mais ça a le même goût. C'est-à-dire que là, on va vraiment demander, sans faire un référendum, on va demander l'avis au moins de la population.
Oui, ce qui va amener un débat dans la population de
la
commune.
Ça va amener un débat dans la commune et un débat dans la population.
Pour permettre, effectivement, on l'a vu, le cas de Razac, il y a 2 ans, qui voulait fusionner avec Chancelade. Voilà. Et puis d'autres communes où la population de Razac et d'Annecy Beaulieu, si on se souvient, sont montés très largement au créneau
pourquoi pas le rationaliser et puis de demander l'avis à la population. C'est quand même une commune, c'est quand même la population qui est majoritaire, donc la population doit être concertée Et c'est ce qui va se faire si cette motion aboutit. Je pense qu'elle va aboutir. C'est la meilleure façon, justement, pour qu'un conseil municipal puisse faire une commune nouvelle quand c'est justifié, parce qu'il y en a qui sont totalement justifiés. Quand tu as trois communes de 80 habitants, il vaut mieux être 240 habitants, pardon, parce que je ne sais plus calculer, mais plutôt que d'être à 80. Et puis bon, c'est vrai que quelque part, de réunir les forces, des fois, ça a du bon. Par contre, il y en a qui sont beaucoup plus politiques. Celles-là, il faut les sanctionner. Voilà. Moi, c'est mon avis. Hein. Bon, voilà.
Oui, mais non. Faudra que vous tiriez peut-être le bilan des fusions qu'il y a eu sur le département, parce que...
Il y a eu 500 communes, en gros. Il y avait 550... Mais c'est pas 7, difficile. Hein. Il y avait 557 communes avant les communes nouvelles. Aujourd'hui, il y en a 507. Donc tu fais la différence, donc, ça fait 50 communes nouvelles.
Ouais, 52 communes de moins dans le département.
De moins dans le département, voilà. C'est
donc, avec des nouvelles. Donc, on va continuer. Vous avez aussi, dans le cadre de tout ce que vous avez fait là avec l'Assemblée Générale, mais vous avez rencontré aussi Rousset.
Non, alors ça, c'est pas dans ce cadre-là. Rousset, c'est... Alors, je vais aborder d'abord la nouvelle organisation des maires ruraux. Il a été décidé, en plus du bureau national, où il y a 12 membres, il a été décidé de créer un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y en a un pratiquement par région, ou deux. Et moi, bon, j'ai eu le bonheur et puis le malheur, parce qu'il y a un travail énorme à faire. Ils m'ont demandé, ils m'ont élu comme référent de la Nouvelle-Aquitaine régionale, donc référent régional. Donc je suis référent régional de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'anime l'association au sein de tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, ça engage à quoi? Ça engage que... Je vais aller voir. J'ai déjà fait 3 réunions en visioconférence avec les présidents de chaque département, puisqu'on en a un à chaque département. Il a été décidé que nous serions présents à toutes les assemblées générales. Donc j'ai fait la première il y a 3 semaines dans les Landes. Je suis parti dans les Landes où ça s'est très 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 bien passé. Et je fais vendredi, donc après-demain, je vais faire celle des Charentes-Maritimes. Donc ce référent régional aussi a la possibilité, a le pouvoir d'aller rencontrer tous les élus. Important. Donc les deux premiers que moi j'ai rencontrés, c'est Alain Rousset pour la région et Madame Bussiot pour la préfète de région. Voilà, ce sont les deux que j'ai rencontrés. Alors j'irai rencontrer après les présidents des départements, j'irai rencontrer des parlementaires. D'ailleurs pour la loi 4D, on va en parler tout à l'heure un petit peu, j'ai un rendez-vous avec, il a demandé à me voir, Jean-Pierre Coubertin-Font, qui est le désigné par le gouvernement pour cette loi, pour une mission sur cette loi 4D. M'a demandé de le rencontrer. Donc j'irai lui parler de l'avis de l'association des maires ruraux par rapport à cette loi. Voilà. Alors ça, c'est dans un premier temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que le contact a été très bon avec Alain Rousset, qui s'est engagé comme il l'avait fait dans le mandat précédent, puisque la Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir aussi, est la seule région à avoir une vice-présidente chargée de la ruralité. C'est Geneviève Barra, c'est une élue agricultrice de la Creuse. C'est quelqu'un de très intéressant. On a beaucoup travaillé ensemble. Elle a créé avec nous, avec mon collègue du Lot-et-Garonne et de la Gironde, elle a créé ce qu'on appelle les clusters de la ruralité. Et donc, c'est 6 millions d'euros qu'avait mis le président Rousset avec 280 projets que pour les communes rurales. Donc ça, c'est important. Et en Dordogne, on en avait eu un à Sorgue et un, je me rappelle, à Gaudin. Voilà, on a eu deux projets intéressants, mais il y en a eu d'autres. Alors donc là, à cette rencontre, comme ça a été un succès et qu'il a vu que les communes rurales avaient besoin de la région, il s'est engagé, et je rapporte les mots qu'Alain Rousset nous a dit. Il a dit « J'en ai marre de donner à la métropole, je veux aujourd'hui donner pour les territoires ». Ça nous a fait quand même assez plaisir qu'il pense à nous. Donc il s'est engagé, s'il est réélu bien sûr, mais s'il y a un autre élu, on ira le voir dans les mêmes conditions. Il s'est engagé à faire ce que... Alors on appellera plus ça un cluster de ruralité, parce que cluster, moi ça ne me plaît pas beaucoup. On appellera ça les assises régionales. Alors ces assises régionales, il y mettra quand même 7,5 millions d'euros dans le panier, pour des projets que pour les communes rurales. Donc ça, ça va dans le bon sens.
Alors, quel est le projet pour que nos auditeurs...
N'importe quel que soit le projet, à partir du moment où il est innovant, il va sur la transition énergétique, et à partir du moment où c'est une nécessité, c'est structurant pour la commune. Donc ça peut très bien être dans le domaine du sport, par exemple un city park. Aujourd'hui, ça peut être une rénovation de chauffage d'une école ou d'une mairie, ça peut être de l'isolation, ça peut être toutes ces choses-là qui sont... Oui. Et puis ça peut être aussi des projets innovants. Imaginons que dans une commune rurale, on ait un jeune qui monte une start-up sur n'importe quel sujet, que ce soit l'agriculture, ça rentrera dans le cadre, et ça sera intéressant. Ça peut rentrer aussi dans le cadre. Je me suis engagé, moi, vis-à-vis de la commune d'Aimé, qui aujourd'hui voudrait améliorer l'arrivée justement de médecins et puis d'autres praticiens dans la maison de santé rurale. Je me suis engagé alors à avoir une subvention d'un de ces 7,5 millions d'euros pour ce projet-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui manque aux communes rurales, c'est d'avoir suffisamment d'aide pour qu'un projet voit le jour, voilà, soit fait au lieu de ne pas être fait. Et donc, moi, l'idée que j'ai amenée, qui a été reprise par Rousset, c'est qu'on va rencontrer les présidents de département, et les présidents de département pourront eux aussi aider. Ça veut dire que si, mettons, un projet de 300 000 euros est aidé et par le département, et par la région, et par l'État, on atteindra facilement entre 60 et 80% d'aide. Et là, le projet, il se fera. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des projets qui n'aboutissent pas, parce que les communes n'ont que 30 ou 40% et les 60, n'ont pas les moyens de rembourser les 60% qui restent du crédit qu'ils doivent faire.
Oui, parce que bon, en gros, pour qu'un projet soit viable dans une commune rurale, il faut à peu près 60-70% de subventions. C'est ce qu'il faudrait pour pouvoir...
Voilà, on est loin du compte aujourd'hui.
Et quand on est loin du compte, on n'arrive pas à faire les projets. Donc, il y a des beaux projets qui tombent à l'eau parce qu'il y a...
Exactement. Pas... Et le pire, c'est que ces projets... Une fois que vous avez donné un projet au préfet qui vous a débloqué l'argent, si vous avez débloqué 30% et que vous ne faites pas le projet, ces 30%, ils repartent dans les caisses de Bercy. Mmh. Et ça, c'est insupportable. Il faut que cet argent il soit redistribué. Il est au département. Il est pour les communes rurales du département. Il faut que cet argent il soit utilisé.
Ah oui, il faut qu'il soit utilisé. Il faut qu'il rentre dans la solidarité départementale.
Exactement.
Ou régionale à partir du moment où la parce que c'est souvent l'État ou quelque chose qui bloque bon pour les subventions et qui récupère directement des sommes. Je crois qu'on va bientôt terminer notre émission.
On a beaucoup dit quand même. Malgré que Brigitte ne soit pas là, on lui fait un petit coucou à Brigitte. Je ne sais pas si elle écoute, mais bon, on lui souhaite d'abord bonne chance. On verra bien. Si on a une maire rurale qui est aussi conseillère régionale, ça serait quand même un bon point pour nous pour aller chercher justement pour avoir des solutions déterminantes pour nos communes rurales.
Ok. Ben Alain, je te remercie.
Et de toute façon, on se retrouve comme d'habitude dans un mois. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va démarrer nos émissions sur le Bergeracois, puisque ça a été un gros succès. On en a parlé à l'Assemblée générale. J'ai donné l'exemple de la Dordogne par rapport justement à la communication. Il faut qu'on communique. Et ça, c'est important.
Ouais, je te remercie, Alain. Et donc, au mois prochain.
Eh bien, au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir à tous les auditeurs.